Le Grand Matin Sud Radio, seul contre tous, Philippe David, Patrick Roger.
Allez, c'est parti jusqu'à 10h, on a besoin de vous bien sûr, on vous invite à réagir et à donner votre avis au 0826 300 sudradio.fr et Twitter.
Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour remplir votre frigo? C'est la question.
Et c'est la prise de position de Philippe David, surtout.
Ah non, lui, il ne veut pas payer plus cher.
Il ne veut pas. Ouais, ouais. Ah, vous voulez pas.
Mais moi, je vous pose la question au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes prêt à payer un petit peu plus cher pour remplir votre frigo? C'est-à-dire que acheter des produits en fait de qualité et aider en quelque sorte l'agriculture. Bon, Philippe David, lui, il n'est pas prêt.
On nous le répète depuis quelques jours en marge des états généraux de l'alimentation. Il faudrait augmenter les prix des produits pour que les producteurs vivent correctement de leur travail. Et seul contre tous, jusqu'à 10h sur Sud Radio, je le dis, je ne veux pas payer plus cher pour remplir mon frigo. Je ne veux pas, car, comme pour tous les Français, le pouvoir d'achat est en berne. Tout augmente, de l'essence à la baguette de pain en passant par les loyers, tandis que les revenus au mieux stagnent, au pire baissent ou vont baisser, comme pour les retraités avec la hausse de la CSG. C'est pourquoi, je le dis et je le répète, seul contre tous, je ne veux pas payer plus cher pour remplir mon frigo. Car comme l'a dit Michel-Édouard Leclerc hier sur Sud Radio, je cite... Le monde paysan ne demande pas l'aumône, il demande un juste prix. Si les pouvoirs publics disent que le prix du porc ne doit pas être en dessous de 1,40€ sur le cours français, pas de problème. Ce n'est pas un problème en soi. Même nous, on peut réduire nos marges pour amortir une partie de cette hausse. Alors je le dis et je le répète, je ne veux pas payer plus cher pour remplir mon frigo. C'est donc à la distribution, qui vit très grassement sur les producteurs, de baisser ses marges. Et comme l'a dit Michel-Édouard Leclerc, ce n'est pas un problème en soi. Et outre les distributeurs, les groupes agroalimentaires gagnent des milliards sur notre dos et celui des producteurs. Je vais vous donner les 10 plus grosses multinationales agroalimentaires du monde dans l'ordre de chiffre d'affaires. Nestlé, Unilever, PepsiCo, Mondelez, Coca-Cola, Mars, Danone, Kellogg's, General Mills, Anheuser-Busch InBev, Procter & Gamble. Ces noms vous disent quelque chose? Bah vous leur donnez tout votre argent chaque fois que vous prenez un caddie. Alors, si vous ne les connaissez pas, eux au moins vous connaissent. C'est pourquoi je le dis et je le répète, je ne veux pas payer plus cher pour remplir mon frigo. Et puis j'en ai marre de l'État qui donne des leçons. Vous savez, il fait un peu du Coluche, comme disait Coluche, la méthode des pays de l'Est. Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. S'il veut donner du pouvoir d'achat aux Français, une méthode très simple, il baisse la TVA sur les produits alimentaires, tout le monde sera content. Pourquoi je le dis et je le répète, je ne veux pas payer plus cher pour remplir mon frigo.
Alain Sambourg, face à vous, représentant de la coordination rurale, en attendant aussi vos appels au 0826 300 300. Vous avez entendu Philippe David. Quel est votre argument, vous? Il faut payer un petit peu plus cher si on veut avoir des produits de qualité, c'est ça?
Bonjour à tout le monde. Alain, écoutez, nous on est
producteurs. Vous êtes producteur.
On est producteur. Donc le but c'est de produire. Voilà, c'est le béaba. Donc on doit produire le moins cher possible, être compétitif. Mais nous, on n'a aucune action sur le prix aux consommateurs. Donc le départ du prix alimentaire, ça devrait être le prix de revient à l'exploitation plus une marge, et on part de ça pour faire des produits alimentaires qui vont aller aux consommateurs. Et là, ce qui manque aujourd'hui, c'est cette transparence entre le prix donné aux agriculteurs, le transformateur qui effectivement transforme ces produits-là donc à un coût de prix de revient, et ensuite la grande distribution qui prend elle aussi des marges. Et dans le système actuel, on a complètement isolé l'agriculteur parce que lui, on lui demande de produire, mais on lui donne pas de prix pour sa production. Donc aujourd'hui, on a des agriculteurs qui s'en vont, qui suicident. Moi, en 84, on était 2 millions, un peu plus de 2 millions agriculteurs. Aujourd'hui, on est 160 000 et on prévoit 60 000 agriculteurs. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème de rentabilité au niveau d'exploitation. Et quand on prend des produits basiques comme le pain, on a des prix de blé qui sont bas. Et on a toujours augmenté le prix de la baguette.
Donc, c'est-à-dire le prix, par exemple, du blé est quasiment l'équivalent du prix pratiqué il y a... Vous avez parlé de 84 ou pas
En 84, 24 centimes le kilo. Aujourd'hui, 13 centimes le kilo.
Alors, en 84, on était en francs.
Je traduis
en euros. Converti en euros.
Converti en euros.
Oui, donc évidemment, dans ces conditions, c'est assez difficile.
Voilà, et la baguette depuis 1984 a largement augmenté.
Bien sûr, très largement.
C'est là que l'exploitant agricole est déconnecté de la réalité des prix aux consommateurs. Parce que nous, on est frustrés de cette année de vendre des abricots à 20 centimes et les trouver à pas moins de 2,99 euros. Là, y a, c'est un vrai scandale. Pourquoi on n'a pas fait aider le consommateur à payer moins cher, puisque le kilo d'abricot était moins cher.
Oui. Est-ce que les industriels font une véritable en fait pression sur vous, sur l'ensemble en fait du monde agricole, parce que c'est vrai que vous subissez aussi la concurrence de ce fameux marché européen depuis maintenant des années. Alors il y a eu des subventions pour rattraper, pour que vous soyez, que vous en sortiez encore, mais la pression n'a pas diminué quoi de la part des industriels.
Alors, pression européenne, mais pression internationale.
Internationale,
parce qu'aujourd'hui, on est dans la mondialisation.
Les prix sont mondiaux. Donc, vous êtes en concurrence avec les agriculteurs
argentins. Avec qui? Avec des gens qui payent pas leurs salariés, ouais. Avec des gens qui ont un cahier des charges différent de nous. Mais quand on a une équivalence en valeur, comme les Américains disent, une fois que vous avez l'équivalence en valeur, on s'occupe pas du prix de revient de la marchandise. C'est-à-dire du soja américain ou du soja français, équivalent en valeur, c'est du soja. Mais le cahier des charges n'est pas du tout le même. Entre un soja fabriqué en France avec des produits homologués français et un soja américain.
Qui est transgénique.
Voilà, avec un cahier des charges totalement différent. Et là, il devrait y avoir une différence de prix. Et là, en fait, en Europe, on nous targue avec du soja américain, du maïs américain. Et ça satisfait tout le système agroalimentaire. Et la lécithine de soja qu'on trouve dans toutes les préparations agroalimentaires, on n'en parle pas. On parle du glyphosate, mais ça fait 20 ans.
Et on mange donc du transgénique sans le savoir.
Voilà. Ouais. On va continuer le débat avec vous. On va aller
évidemment,
côté du standard.
Oui. Sud Radio vous attend et vous nous appelez 0826 300 300. Voici Eric qui, lui, je crois, est d'accord pour payer plus cher. Hein. Bonjour Eric, bienvenue sur Sud Radio.
Oui, bonjour tout le monde. Philippe, je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais. Je suis prêt à payer, moi, 5 plus cher le produit, parce qu'en réalité, du point de vue du consommateur, ça va nous faire quoi ? 5 centimes au kilo. Et on aurait des agriculteurs contents. Sauf que ces 5 centimes au kilo ou au litre de lait, par exemple, les agriculteurs ne l'auront jamais, jamais, jamais dans leur poche.
Ouais. C'est ça le problème.
Moi, j'ai mon jambon qui a pris 10 centimes. Je suis sûr que le monsieur qui a fait le cochon, on lui a rien donné du tout.
Et justement, vous n'êtes pas d'accord quand même avec moi, Eric, que ce serait aux multinationales de l'agroalimentaire qui contrôlent 90% de notre alimentation et aux distributeurs de faire un effort plutôt qu'aux agriculteurs?
C'est tout un ensemble, bien sûr, c'est pas l'agriculture, puisque c'est eux qui doivent... Dans toute la production, c'est ça qui est affolant dans le monde, c'est que dans tous les domaines, c'est la production qui paye pour le tertiaire, en fait. Dans tous les domaines de production, on pressurise au maximum tous les domaines de production, l'agriculture, la GMS, enfin tout le monde, on pressure la production et tout le monde se gave au-dessus et la production, on la laisse crever. Mais quand il n'y aura plus de producteurs, on va faire comment ?
Mais justement, Eric, est-ce que vous ne croyez pas, vous dites c'est ceux qui sont au-dessus qui se gavent, et vous ne croyez pas au contraire que c'est les deux qui sont aux extrémités de la chaîne qui se serrent la ceinture, c'est-à-dire pour l'alimentation, d'un côté les agriculteurs, de l'autre côté les consommateurs qui ont un problème de pouvoir d'achat, et qu'au milieu ce sont les transformateurs et les distributeurs qui, vous me passerez l'expression, se gavent.
Entièrement d'accord. Là, je redeviens entièrement d'accord. Mais c'est
vous voyez,
je suis
convaincu.
Pas d'accord avec vous pour le fait de ne pas payer plus cher si ça va à ma production, on va dire, dans tous les domaines de produits en fait.
Oui, et là, on n'est pas certain d'avoir des garanties que ça reviendra bien dans la poche du producteur. Bon, alors c'est vrai que j'aime faire le défenseur aussi des industriels et puis de la grande distribution. Eux aussi ont des coûts, bien sûr, au passage, quoi, Alain Sambour.
Bien sûr, mais nous aussi, on a des coûts au niveau des agriculteurs. Donc, ces coûts-là, il faut qu'on les répercute. Mais nous, on n'a pas... En plus, c'est qu'on est obligé de livrer à des transformateurs et c'est pas nous qui faisons les factures, c'est pas nous qui faisons les prix. Moi, j'ai de la famille dans l'industrie, vous faites un bien industriel, vous avez votre prix qui arrive sur le marché, vous faites votre prix de revient et
vous prenez
votre
marge.
Parce que
et
si vous ne collez pas au marché, vous ne produisez pas le produit. Donc, mais nous, on est obligé de produire. Puisqu'on nous demande des contrats, mais c'est des contrats de production sur 5 ans, peut-être révisables sur 3 ans. Mais voilà.
Sur quel produit les contrats sur,
bah, sur le lait, voilà, ouais. Sur les céréales, sur les betteraves, puisqu'aujourd'hui on a arrêté les quotas betteraviers, on a fait engager des producteurs de betteraves sur des contrats. Alors en France, on voulait 5 ans, ça a été un peu.
C'est pour la betterave à sucre, vous voulez dire?
Betterave à sucre, pardon. Oui,
parce que de mémoire, au niveau de l'Europe, on a arrêté de subventionner la betterave à sucre pour importer plus de sucre de canne, notamment.
On n'a plus de quotas. Il y avait des quotas betteraviers comme les quotas laitiers, donc ça a été aboli.
Absolument.
Et alors, on vient d'apprendre, donc ça c'était le 1er octobre, et on vient de lire, c'est qu'effectivement, comme on a abandonné les quotas, on est obligé de faire entrer du sucre des pays en voie de développement. Et donc, aujourd'hui, il y a eu un communiqué de presse pour dire qu'il y avait 5 usines betteravières qui étaient de trop en Europe parce qu'effectivement, on allait faire entrer du sucre. Mais on nous dit ça le 2 octobre. On ne nous en a pas parlé quand les betteraves ont été semées au mois de mai.
Mais est-ce que l'une des pistes, Alain Sambourg, représentant de la coordination rurale, ce n'est pas finalement de se concentrer aujourd'hui sur la qualité pour produire mieux? Et donc, peut-être aussi avec des produits qui seront un petit peu plus chers, quoi.
Alors, vous faites bien d'en parler.
Oui.
Parce que l'année dernière, je veux parler de la céréale, du blé.
Oui.
On a une très mauvaise, soi-disant une très mauvaise qualité, mais le blé, on ne l'a pas mis à la décharge, on l'a utilisé. Et cette année, on a une qualité exceptionnelle.
Oui.
Aujourd'hui, entre la qualité exceptionnelle qu'on a et le fourrager pour les animaux, il y a 2 euros.
Oui.
2 euros de la tonne.
Oui.
2 centimes, 0,02 de kilo. Et on a une qualité exceptionnelle,
entre
on
dit qualité, qu'on est le fleuron,
finalement,
le
top. Ouais.
Donc,
ça ne change
vous voyez
rien
bien
vous.
Que la qualité, si effectivement c'est pas reconnu, est-ce qu'il y a qualité et prix? Non, il faut pas tromper le consommateur.
Mais quand vous avez entendu Eric qui nous appelait d'Argenteuil, qui disait « mon jambon il a augmenté de 10 centimes et je suis sûr que l'agriculteur il a rien vu », qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Eric?
Eh ben, effectivement, il a tout à fait raison. C'est que le cours du porc a pas suivi l'augmentation du jambon. Et on a encore le beurre. Là, cette année, c'est vraiment exceptionnel. C'est qu'on a du beurre qui a été multiplié par 3 en 4 mois. C'est-à-dire entre février et juin, on est passé de 350 euros à 1000 euros la tonne. Excusez-moi. Mais au niveau des laitiers, le lait est toujours le même prix. Donc là, il y a vraiment un dysfonctionnement entre le prix au consommateur et le prix à la production. Donc il va bien falloir avoir un courage politique pour dire le prix à la consommation, ça va être le départ, c'est le prix chez l'agriculteur. Parce que si on veut conserver les agriculteurs, c'est eux qu'il faut privilégier au niveau du prix.
Sur Internet, pour ceux qui ont la gentillesse de voter sur sudradio.fr, 78% sont d'accord avec Philippe David pour sa prise de position, qui dit « je ne veux pas payer plus cher pour remplir mon frigo, mais vous, êtes-vous prêt à payer plus cher ? Dites-le nous, on a besoin de vos témoignages. Allez-vous nous appeler au 0826-300-300. Vous êtes avec Philippe David, Patrick Roger, c'est jusqu'à 10h, c'est Seul contre tous, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, Seul contre tous, Philippe David, Patrick Roger.
Merci de rester avec nous jusqu'à 10h en direct sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826-300-300 si vous voulez participer au débat. Je ne veux pas payer plus cher pour remplir mon frigo. Ça, c'est la prise de position de Philippe David, mais vous avez peut-être un autre avis. Dites-le nous, on vous attend également sur sudradio.fr et sur Twitter.
Oui, avec Alain Sambourg, représentant de la coordination rurale. Et de nouveau, des
Chantal appels. Au 0826-300-300 qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour Chantal, bienvenue sur Sud Radio.
Oui, bonjour à tous. Oui, moi j'ai une question ce matin, mais je peux dire à Philippe David que moi je préfère payer un peu plus cher. Je ne regarde même pas d'ailleurs.
Oui.
J'achète moins et je paie et j'achète local. Je regarde d'où ça vient, d'où les produits viennent, etc. C'est contraignant, mais finalement je vais une fois chez le médecin par an environ. Donc je pense que c'est un petit peu la conséquence de ma
De votre consommation.
De mes idées.
De votre mode de consommation.
Alors, voilà. Par contre, parce que, par exemple, je préfère aller ramasser la pomme du pommier d'à côté plutôt qu'en en acheter une qui vient d'Argentine.
Oui.
Et donc, je ne sais pas comment elle a poussé et comment elle est arrivée. Bon, mais la question de ce matin, ma question à moi, c'est, parce que j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, c'est comment le transport est pris en compte dans ces prix de nourriture-là. Le coût du transport, parce que j'ai déjà entendu beaucoup de choses, donc j'aimerais bien qu'on m'éclaire là-dessus.
Chantal, on va vous éclairer avec Alain Sambourg, représentant de la coordination rurale, sur ce problème du prix du transport, dans le prix.
Quand vous avez des poulets qui viennent du Brésil, et qu'on importe en Europe. Vous allez faire un voyage avec votre femme, vous allez prendre un billet d'avion, vous allez au Brésil, il y a un coût. Et là, effectivement, le transport maritime, qui est-ce qui paye,
coûte
comment
pas cher.
Ça se passe. Et si, effectivement, il y avait ce CO2, hein, cette consommation, cette production de carbone entrait en relation dans le prix du transport, peut-être qu'on serait plus avantageux à faire une consommation en circuit court. Parce que si le transport était une valeur importante, eh ben
Il a une valeur, quoi qu'il en soit. Donc,
il a une valeur, mais...
La grande distribution qui fait venir, ou les industriels qui font venir ces produits, alors vous avez parlé d'Argentine, mais on peut parler d'autres pays, forcément, il répercute le prix du transport. Il intervient finalement...
Peu, parce que effectivement, je ne sais pas si ça vient de très loin. Normalement, le transport doit impacter le prix de la marchandise.
Et
aujourd'hui, c'est pas le cas.
Le transport, ça veut dire que la production, c'est très bas.
À la production, c'est très bas. Et le transport en bateau est très peu cher. Vous faites venir un conteneur de 20 pieds d'Asie, si vous faites de la crevette, par exemple, qui vient de Thaïlande ou du Vietnam, vous allez payer le conteneur, un conteneur frigorifique, 3000 euros le transport. Vous mettez des dizaines de tonnes dedans.
Oui, donc vous l'amortissez très vite.
C'est ça. Et en plus, les coûts de production sont beaucoup plus bas à Luxembourg.
Bien sûr, le niveau social des salariés n'est pas du tout comparable. Donc ça, c'est aussi... nous, on est sur la TVA sociale, on est aussi sur l'exception agriculturelle, c'est-à-dire qu'en Europe, on doit protéger la production agricole, comme des tas de pays le font, la Russie, le Japon, la Chine, ces gens-là se protègent. Nous, en Europe, on fait venir des productions en disant « mais vous n'êtes pas compétitif, donc on va acheter ailleurs parce que les prix sont plus bas ». Mais on détruit tout un tissu rural, tout un tissu de producteurs européens, et ça, c'est pas normal.
Vous nous parliez pendant la pause tout à l'heure d'exemples de cochons, le cochon qui part d'élevage en France pour aller par exemple en Allemagne et puis revenir après. Donnez-nous cet exemple qui est très éclairant.
Vous avez des coches qui sont à 120, 140 kilos. Malheureusement, en France, on peut pas les abattre, donc on les emmène
en Allemagne.
On n'a pas les structures pour abattre des gros cochons.
D'accord.
C'est tout simple. Donc, on a privilégié l'abattage d'un cochon standard.
Oui.
Ça, c'est un peu français.
Donc, ça part en Allemagne.
Et puis après, ça revient en France, soit transformé, soit en carcasse. Oui. Et donc là, on a encore du transport. Je veux dire, transporter des animaux pour aller les tuer, et je parle pas du stress du transport sur les animaux.
Oui, il y a cette question également.
Tout à l'heure, on a une dame qui disait qu'elle allait une fois chez son docteur parce qu'elle a consommé en circuit court. Moi, je peux vous dire
Chantal,
elle
a une chance, elle habite l'Aveyron.
Oui,
en Aveyron, on peut aller acheter chez le producteur à côté de chez soi. Eric, qui nous appelait d'Argenteuil, trouver un producteur de poulet ou de bovin à côté d'Argenteuil, c'est un peu plus compliqué.
C'est surtout qu'il n'y a pas d'abattage circuit court. Donc, en petits animaux, ça va encore, mais dès qu'on passe à des gros animaux, on n'a pas envie, il n'y a pas d'abattage autour de Paris pour faire 80 km ou 100 km avec son bœuf.
Oui, on parle quand même de plus en plus de ces circuits courts. C'est l'une des pistes pour l'agriculture française dans les années qui viennent.
Dans le circuit court, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on produit quelque chose qu'on va pouvoir vendre, parce que vous êtes obligé de produire, que le consommateur vient chez vous, il va acheter ces produits-là. Vous parlez avec le consommateur donc de la façon dont vous produisez vos produits. Donc il y a un relationnel humain qui fait qu'on a une certaine confiance. On construit une confiance entre le producteur et le consommateur. Et le consommateur va aller voir les prix dans les supermarchés parce que ça c'est comme ça. Et puis en fonction de sa santé, en fonction des kilomètres qu'il n'a pas à faire parce que c'est tout près de chez lui, naturellement, il y a un équilibre qui se fait. Et je pense que peut-être qu'en région parisienne, il y a des choses qui sont faites, des marchés où on concentre des productions bio.
Sur l'ensemble de la France, aujourd'hui, il y a maintenant
producteurs. Mais à Paris, il y a 12 millions de personnes, il faudrait que ça avance. Parce qu'on a Rungis, mais Rungis, tout vient... tout est centré ici, ça vient des pays étrangers.
C'est la même chose à une autre échelle à Bordeaux, avec le marché des Capucins, un peu partout, oui, bien sûr.
Mais vous avez dit une chose qui m'a touché, vous avez dit TVA sociale. Il y a quelques années, la France avait la première agriculture d'Europe. Depuis quelques années, on a été dépassé par les Allemands, et entre-temps, les Allemands ont fait la TVA sociale, Est-ce que ce serait pas... Alors, je rappelle pour les auditeurs que la TVA sociale, c'est-à-dire qu'on paye dans sa consommation une partie de la protection sociale, ce qui fait que la chemise importée de Chine ou le poulet importé du Brésil paye de la protection sociale, comme le poulet qui vient de Bretagne ou la chemise qui vient de Carcassonne. Est-ce que ce serait pas une bonne chose de faire la TVA sociale, Alain Sambon?
Alors, on revient
parce que la
preuve,
ça réussit aux Allemands, hein.
C'est qu'il y aura une répercussion sur le consommateur et vous êtes contre une augmentation.
Ben non, parce que dans ces cas-là, on pourra baisser les prix à la production,
oui, mais
pour les produits français.
Il faut que tout ça soit transparent,
ah
il
oui,
faut que
sûr.
Tout ça, ça fonctionne avec une volonté. La volonté, c'est en fait aider à la production nationale ou européenne par rapport à une concurrence sociale qui est au plus bas. Donc,
oui. On va reprendre un appel, hein, Sophie.
Oui, au 0826 300 300, nous avons Amélia qui est avec nous. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, Amélia.
Merci, bonjour à vous tous, bonjour aux
bonjour.
Auditeurs.
Oui. Mais,
alors écoutez, moi je vous écoutais, moi je suis contre. J'en ai marre, on m'augmente de tous les côtés, constamment, chaque oui. année, mes revenus ils augmentent pas. Par contre, notre État français qui est la championne de la création des taxes, des trucs et des machins, il pourrait créer une taxe qui viendrait se greffer à la TVA sur tous les produits qui ne sont pas français, parce qu'ils ont le droit, je pense, et reverser tout cet argent à nos agriculteurs, parce qu'ils le méritent. Ils nous fournissent des produits de qualité. Et moi, je trouve ça génial. Donc, défendons-les, levons-nous, je sais pas, faire quelque chose. L'État français qui est toujours en train de dire, surtout notre Macron qui dit « La France, c'est génial, il faut les aider », ben, faisons ça.
Amélia, je vais vous répondre que c'est impossible parce que la France ne décide pas des droits de douane à l'importation des produits extra-communautaires. Tout est fait par Bruxelles, ça s'appelle le TEC, le tarif extérieur commun. Donc la France n'a aucun pouvoir de décision
oui,
dans ce domaine.
Ce que dit Amélia, on la comprend, hein, évidemment. C'est-à-dire que vous, Amélia, vous seriez prête à payer en fait un petit peu plus cher et que la taxe aille directement, bien sûr. Mais aux agriculteurs, quoi.
Non, mais attendez, c'est pas ça que je dis. Regardez, nos produits pétroliers, ils ont un prix de base et puis ils nous ont rajouté des tonnes de taxes qui font que notre gazole augmente.
Ouais.
Ils nous l'augmentent chaque année. Pourquoi ils ne feraient pas le même principe alors que ce ne sont pas des produits qui sont créés en France, le pétrole, il est bien importé. Donc, les produits qui sont en France, ils n'ont qu'à créer une taxe un peu l'équivalente de notre essence et cette taxe-là serait reversée à nos agriculteurs.
Oui. Rien n'est bah oui. Rien n'est impossible. Alain Sambour, restez avec nous en ligne, Amélia. Oui.
Non mais alors, ces aides pour sauver des entreprises, on a connu ça dans le textile, on connaît ça dans pas mal de branches. On a vu aussi avec la PAC, avec les compensations sur
la
les
politique
prix.
Agricole commune.
Et ça nous mène vers un mur, c'est-à-dire que quand on est industriel, le but c'est de produire et d'être payé sur sa production, c'est ça. Les aides, c'est éphémère.
Oui, mais vous avez une concurrence qui est entre guillemets déloyale, puisque évidemment on produit beaucoup moins cher ailleurs. Et on ne peut pas aller mener une politique que ce soit en Roumanie ou au Brésil.
Mais c'est ça l'indépendance.
Ben oui.
Si on veut être indépendant et si on veut gérer son alimentation, et je crois que pour un pays c'est très important,
bien
parce qu'un pays qui n'a plus d'agriculture, qui n'est plus indépendant, c'est un pays qui est voué à être sous la botte des Américains, des Chinois, et ça, c'est pas raisonnable au niveau de l'alimentation.
Ouais.
Je vais vous donner un exemple.
Ouais.
On fait du maïs 14 centimes le kilo. Vous achetez des pétales Kellogg's, on va citer en maïs. Est-ce que vous imaginez que ces gens-là vendent 7000 euros la tonne? Vous passez de 140 euros la tonne à 7000 euros la tonne. Vous les écrasez, vous les déshydratez, vous mettez du sucre. Et là, il n'y a pas quelque chose qui fonctionne pas bien.
Il y a des marges qui sont conséquentes, quoi.
Même si vous mettez le maïs à 500 euros tonne, vous resterez toujours à 7000 euros tonne en Kellogg's. Ça pose pas de problème. Donc ça, c'est quelque chose qui est vérifiable. On est dans cette façon-là.
De toute façon, aujourd'hui, c'est les grandes multinationales qui font les prix et celles qui vous disent c'est tel prix. Si t'es content, ça va. T'es pas content, tant pis, on va acheter ailleurs.
Alors, faut pas oublier aussi, c'est qu'en France, on a un système coopératif où, effectivement, on redistribue le prix chez les agriculteurs, on mutualise. C'est-à-dire que toutes les charges sont payées et ce qui reste va à l'agriculteur.
Voilà, merci. Amélia était en ligne avec nous. Vous étiez nombreux au téléphone à nous appeler et à voter. Sophie.
Alors, 69% d'accord avec Philippe David lorsqu'il
ça a baissé quand même.
Je ne veux pas payer plus cher pour remplir mon frigo. Merci à tous ceux qui ont voté. Merci aux internautes et aux auditeurs.
Oui.